Et à 9h15, François, votre invité est le président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Reims.
Bonjour Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Le chantier de Notre-Dame de Paris devrait reprendre en 8 jours, lundi 19 août. On imagine que c'est un chantier que vous suivez de près. C'est une bonne nouvelle que ça puisse reprendre ?
Ben oui, pour moi, comme je pense pour tout le monde, pour tous ceux qui sont attachés à Notre-Dame de Paris, et on a pu mesurer au moment de son incendie combien cet attachement était universellement répandu, non pas seulement en France, mais dans le monde entier.
Les habitants et les parents d'enfants dans les écoles alentours se soucient du plomb répandu par 400 tonnes dans l'air, sur les sols et les murs d'une partie de la capitale. Il y a bien sûr aussi la santé des ouvriers qui est en jeu. C'est pour ça, pour l'instant, l'enjeu prioritaire.
En tout cas, il est clair qu'il faut que ce chantier soit exemplaire. Donc, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires, toutes celles qu'on est capable de prendre aujourd'hui, pour que ce chantier se déroule dans de bonnes conditions, ne présente un danger pour personne, ni pour l'environnement, ni pour les ouvriers. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes relativement bien équipés pour ce genre de précautions.
Alors, nous sommes au début du pèlerinage national qui rassemble des milliers de personnes en vue de l'Assomption le 15 août. Qu'est-ce qui les pousse toutes à se rendre à Lourdes en 2019 ? Que viennent-elles y chercher ?
Ben voilà une bonne question qu'il faudrait poser à chacun ou à chacune d'entre eux. Lourdes, c'est un lieu un peu tout à fait extraordinaire, un peu à part, où on a l'impression de faire une expérience de l'humanité un peu différente, parce que les personnes malades sont au centre de l'attention de tous, parce qu'il règne un climat de fraternité, tout à fait exemplaire. Et finalement, à Lourdes, on expérimente le fait que ce qui prime, c'est la relation à Dieu, la relation aux autres. Et c'est un moment pour élargir son cœur. Donc je pense que beaucoup de gens viennent à Lourdes chaque année, pour soit comme personne malade, soit pour aider, parce que c'est l'occasion pour tous de découvrir de nouvelles relations plus intenses, plus réelles, dégagées de toutes les contraintes et tous les codes de la vie ordinaire.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vous êtes depuis 2 mois le président de la Conférence des évêques de France, mais vous n'êtes pas le chef des évêques français, ni le relais du pape auprès d'eux. Comment voyez-vous cette tâche pour vous dans les 3 ans qui viennent ?
Alors, la tâche du président de la Conférence des évêques est une tâche, disons, d'animation. Il y a en France, disons, une centaine d'évêques, en comptant les évêques qui sont dans un diocèse, les évêques auxiliaires. Donc, il faut arriver à coordonner un peu le travail et la réflexion, surtout, de tous les évêques. Chaque évêque est responsable dans son diocèse, mais il convient de réfléchir ensemble à un ensemble de sujets qui nous sont communs. Il y a parfois des décisions que nous avons à prendre parce qu'elles nous engagent tous. Donc, il faut arriver à animer tout cela et à permettre à chaque évêque d'exercer pleinement sa responsabilité. C'est un peu ça, mon souci personnel, que nous n'ayons pas un fonctionnement trop parlementaire, si je puis dire, même s'il faudrait corriger ce jugement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un groupe majoritaire par rapport à des groupes minoritaires. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Ce n'est pas comme ça que nous devons fonctionner. Il faut maintenir un climat fraternel dans lequel chaque opinion compte, mais qui permette tout de même que l'on prenne une décision de la manière la plus unanime possible.
Parmi les dossiers qui peuvent attendre l'Église catholique de France, elle s'est impliquée ces dernières années dans des débats de société comme lors du mariage pour tous. Est-ce qu'on va entendre les évêques à l'occasion de la loi permettant aux couples de femmes et aux femmes seules de recourir à la PMA ?
Ben, sur la PMA, surtout tout ce qui concerne le début de la vie, on a déjà beaucoup entendu les évêques. Hein. Nous avons, depuis des années, à chaque révision de la loi de bioéthique, les évêques ont dit ce qu'ils avaient à dire. Nous avons fait faire des études, nous avons rédigé des livres, notamment Mgr Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, qui est un peu notre spécialiste du sujet, qui a coordonné le travail à ce propos, a publié plusieurs ouvrages. Nous avons envoyé aux parlementaires. Il y a eu beaucoup de tribunes et d'interventions diverses, parce que l'enjeu nous paraît vraiment très, très, très capital. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain ? Qu'est-ce que c'est que nous respecter en tant qu'être humain, mutuellement ? Et qu'est-ce que veut dire procréer ? Qu'est-ce que c'est que engendrer la vie ? Dans quelle responsabilité sommes-nous placés par ce grand mystère de la procréation ? Et puis au-delà des évêques, il y a tous les catholiques, hein, beaucoup de citoyens. Enfin, tous les citoyens sont concernés. C'est à tous les citoyens d'être attentifs dans cette révision des lois de bioéthique.
Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, autre sujet de société que vous avez suivi dans votre propre diocèse, puisque vous êtes archevêque de Reims, la fin de vie de Vincent Lambert, cet homme dont on a finalement arrêté les soins après des années de désaccord entre ses proches. J'imagine que ça vous a beaucoup fait réfléchir. Qu'en retirez-vous de cette affaire, comme on dit ?
Oui, ça m'a effectivement beaucoup fait réfléchir. En devenant archevêque de Reims, je savais bien que j'allais devenir l'archevêque de l'endroit où se trouvait M. Vincent Lambert. Ma première réflexion, c'est que c'est un cas singulier, c'est avant tout une personne, c'est pas une affaire, c'est pas Vincent Lambert, c'est une personne dont il s'agit de savoir comment on peut s'occuper au mieux. Et pour ma part, j'ai comme beaucoup, j'ai regretté les tons d'invective employés parfois des deux côtés, par les partisans d'une solution comme par les partisans d'une autre. D'ailleurs, je me réjouis que finalement, dans la mort de M. Vincent Lambert, une certaine paix des esprits se soit faite. Maintenant, l'autre grand sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être mort ? Parce que j'ai entendu des médecins dire « mais Vincent Lambert est mort depuis très longtemps ». Bon, il est mort peut-être, admettons, mais son corps ne l'était pas, son corps n'était pas prêt de devenir un cadavre. Donc ça n'entrait pas dans la définition ordinaire de la mort. Donc qu'est-ce que c'est qu'il nous faut réfléchir ? Qu'est-ce que c'est qu'être mort ? Qu'est-ce que c'est qu'être vivant ? Et comment est-ce qu'entre vivants, nous nous aidons le mieux possible à vivre ?
Parmi les dossiers,
et un troisième sujet pour moi très important, c'est que n'entrions pas dans une société où tous ceux qui sont dépendants des autres s'imaginent devoir se faire disparaître. Qu'on se mette dans la tête que parce que je suis dépendant, eh bien la meilleure chose que je puisse faire, c'est de mourir. Dépendre les uns des autres, c'est notre condition humaine aussi.
Bien sûr. Parmi les dossiers qui vous attendent, il y a celui de la crise des abus sexuels. Sur ce sujet, l'Église de France cherche désormais à la fois une forme de réparation, de prévention, d'exemplarité pour l'avenir. Est-ce que vous avez avancé sur l'idée émise d'un geste financier pour les victimes ?
Alors nous avançons. Il y a quelques difficultés juridiques à lever. Le groupe de travail qui a réfléchi à cette question a déjà eu quelques séances avec des personnes victimes. Il doit en avoir d'autres, parce que nous voulons co-construire ces solutions. Il faut voir ce que les personnes victimes souhaitent, quelle est la meilleure manière de proposer ce geste. Donc tout ça est en cours d'élaboration. Nous ferons le point là-dessus à l'Assemblée de novembre. J'espère que nous aurons bien avancé en novembre, même si nous serons malheureusement sans doute pas complètement au terme, parce que la constitution du fonds nécessaire est assez difficile, y compris dans les conditions juridiques. Et puis ce geste, quelle sera la nature juridique de ce geste ? Comment est-ce que ceux ou celles qui en seront les bénéficiaires l'intégreront dans leurs revenus ? Pour certains, ça peut être difficile. Donc il faut que nous trouvions les bonnes solutions juridiques à cela.
Beaucoup de questions encore, donc de précisions à apporter. Merci, Monseigneur Éric de Molin-Beaufort.
Merci à vous, bonne fête de l'Assomption à tous.
Président de la Conférence des évêques de France, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin et bon dimanche.